France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors, bien sûr, vous le savez, depuis ce matin, on en parle, Christophe Salengro est mort aujourd'hui, un comédien, mais surtout président de Groland, une sorte d'Emmanuel Macron avant l'heure, en fait, puisque lui aussi n'avait pas d'opposition, qui aimait les discours marquants, et le président de la République, d'ailleurs, lui avait rendu un hommage à son homologue grolandais au salon de l'agriculture, en disant qu'il buvait du vin, midi et soir. Le président Salengro, la figure politique la plus marquante de ces dernières années, surtout le dernier amateur de la chasse aux clowns, donc gloire à lui. Et eux, on ne sait pas s'ils se sont inspirés de cette figure, on verra bien. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocat Emmanuel Pierrat, bonsoir.
Bonsoir.
Également le député de Paris, La République En Marche, Sylvain Maillard, bonsoir.
Bonsoir.
Éric Scholl, directeur de Courrier International, bonsoir.
Bonsoir.
Et Étienne Girard, bonsoir de Marianne.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, nous parlerons de justice en week-end, on parlera également de la SNCF, un peu également du Kurdistan, mais juste avant, nous recevons Hervé Christoffel. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire général SNEPSUP FSU, l'un des syndicats de l'enseignement supérieur. Et avec vous, nous allons revenir sur la situation dans les universités. C'est l'heure d'ailleurs de notre premier débat. À Tolbiac, à Paris, Toulouse, Montpellier, mais également Nantes, Nancy et Bordeaux, les facultés enchaînent contestations et blocages afin de protester contre la nouvelle loi d'accès à l'université. Un mouvement qui a pris de l'ampleur, d'ailleurs avec l'évacuation musclée la semaine dernière d'un amphithéâtre de l'université de Montpellier par des individus cagoulés. Un mouvement qui semble se radicaliser puisque le doyen du site de Tolbiac à Paris craint que la situation dégénère. Hervé Christoffel, est-ce qu'il y a un risque que ça dégénère ?
On ne sait jamais comment peut se dérouler un mouvement social. Et en effet, si la ministre reste droite dans ses bottes, comme elle le fait jusqu'à maintenant, sans écouter la mobilisation et la colère qui grondent, on n'est jamais, malheureusement, à l'abri d'un dérapage.
Alors, ce qui part aujourd'hui, c'est sur la réforme de l'université. Le mot d'ordre, c'est plus de moyens et pas de sélection. Selon vous, vous dans les enseignants donc du secondaire, est-ce que cette réforme, c'est vraiment une sélection ?
Complètement, puisque les bacheliers, on leur a demandé, les lycéens actuellement qui postulent pour poursuivre des études supérieures, on leur a demandé de faire des CV, on leur a demandé de faire des lettres de motivation, c'est un vrai entretien d'embauche, en fait, compte qu'on veut leur faire passer. Et puis derrière, on demande aux enseignants de trier les dossiers, afin donc de voir ceux qui auraient soi-disant les attendus, c'est-à-dire de prévoir ceux qui sont en capacité de réussir. D'accord ? Chose que personne ne peut prévoir auparavant.
À l'avance, oui, c'est ça. Sylvain Maillard, quand vous entendez ça, justement, ce mot sélection, qui n'a pas été prononcé d'ailleurs pendant cette loi, pendant l'organisation de cette loi.
Article 1 de la loi, il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'université. On constate une chose. D'abord, on part d'une situation compliquée, avec un choix qui était fait au tirage au sort précédemment. On a remis la justice en disant, on va informer chaque étudiant d'abord de ses chances de réussite. Et ça, je crois qu'on l'oublie, mais 60% des étudiants en première année échouent à l'université. Alors moi, je veux bien qu'on reste sur l'université extraordinaire avec une vision très idyllique, mais la réalité, c'est que l'échec est majoritaire à l'université. On veut accompagner chaque étudiant. Et celui qui est le plus éloigné, qui part avec le moins de chance, doit avoir un accompagnement individualisé. Et je voudrais juste finir là-dessus, sur une remarque. On va mettre 1 milliard supplémentaire dans l'université durant ce quinquennat. 700 millions dès l'année prochaine. Ça a été déjà voté. Je crois qu'on fait les efforts importants. Évidemment, il faudrait sûrement plus. Mais nous sommes quand même dans un budget contraint. Les efforts sont là. Utilisons bien cet argent.
Hervé Christoffel, quand vous entendez ça.
Eh bien, d'abord, une contre-vérité, puisque l'article 1 a supprimé l'absence de sélection à l'université et donc le permet maintenant, permet la sélection. Dans le code de l'éducation initialement, il y avait interdiction de sélectionner à l'entrée à l'université. Ce projet de loi, et maintenant cette loi votée, a supprimé cette interdiction. Donc au contraire, on l'admet. Maintenant, le tirage au sort, il a concerné 3000 étudiants l'année dernière. D'accord ? Donc on peut en effet le brandir comme un épouvantail auprès de nos concitoyens, mais aujourd'hui, là, c'est 800 000 étudiants qui vont subir la sélection. Et puis, concernant le taux d'échec à l'université, alors pareil, c'est un grand chiffon rouge que brandit le Premier ministre, la ministre et maintenant tous les députés en marche. D'accord ? Il faut dire quand même qu'aujourd'hui, le système supérieur français est plutôt efficient puisque 80% des bacheliers qui s'y engagent en sortent avec un diplôme. Nous avons le meilleur taux de diplomation de toute l'OCDE. Et mais malheureusement, en effet, on manque de moyens à l'université, en particulier, puisque c'est le parent pauvre des études supérieures. Actuellement, l'État investit 2 à 3 fois moins d'argent dans les universités qu'il ne le fait dans les classes préparatoires ou dans les grandes écoles.
Éric Scholl, je voyais ne pas être d'accord. Excusez, Hervé Christophe.
Non, il y a une partie des choses sur laquelle je suis d'accord. En revanche, aujourd'hui, on a quand même, on le sait depuis un petit moment, un problème sur ces premières années d'université. Et là-dessus, c'est difficile de dire quand même vous ne pouvez pas dire non, tout va bien, etc. C'est ce que venez nous dire. Et en fait, non, c'est pas vrai, ça ne va pas bien. Et on le sait, il faut bien à un moment ou à un autre faire en sorte que ces étudiants non seulement soient diplômés, mais puissent aussi trouver des débouchés derrière.
Hervé Christophe.
On demande en effet aux universités d'accueillir tout le monde, hein, et pas seulement les enfants de l'élite et des classes privilégiées comme le font les classes préparatoires majoritairement. Hein, et donc il faut les financer à la hauteur, à minima quand même, des autres formations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
On est d'accord là-dessus. Sur la question des moyens, je suis parfaitement d'accord avec vous.
Après qu'il y ait des réorientations, en effet, dès les premières années, d'accord, que certains, qu'il y ait des redoublements, pour moi, ce n'est pas non plus infamant. À 17 ans, on ne connaît pas exactement son orientation, et on peut avoir quand même l'opportunité de se réorienter pour faire des très belles carrières par la suite.
Emmanuel Perrin, justement, qu'est-ce que vous pensez justement de ça, déjà de ce conflit? On sait qu'aujourd'hui, le gouvernement craint les débordements, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, notamment les universités. Et quand vous entendez ces différents arguments?
Moi, j'aime beaucoup le propos d'Hervé Christoffel, pour être très, très simple, celui qui consiste à dire qu'on peut être un mauvais lycéen et s'épanouir à l'université, parce que ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Moi, je me suis épanoui, en faisant la grève en 1986, j'ai l'air d'un vieux con, mais c'était contre De Vaquet, et je trouvais que ça a fonctionné. Et ça fait de moi, je pense, un bon étudiant ensuite, de contester et de protester contre des mesures qui étaient déjà, d'une façon ou d'une autre, par l'argent, la sélection. Alors, c'est pas l'argent là, nécessairement, mais comme l'argent, il en manque, effectivement, il manque de l'argent, il manque des amphis, donc plutôt que de construire des amphis, libérons la file d'attente. En gros, c'est à peu près ça. Et ça me dérange beaucoup. Voilà, ça me pose une vraie difficulté. C'est la même méthode qui est employée avec la justice pour ne pas rendre la justice. Pour améliorer la façon de rendre la justice, ne la rendons pas du tout. C'est-à-dire empêchons les gens d'aller au tribunal, empêchons donc les gens d'aller à la fac, et ainsi, effectivement, on n'aura plus de soucis budgétaires.
Vous avez quoi comme solution? Parce que là, quand j'écoute, j'ai l'impression d'être complètement hors sol.
Je ne suis pas sûr d'avoir la solution parce que je ne suis pas universitaire. Mais je suis certain, en tout cas, de pouvoir détecter ce qui est une mauvaise solution.
Voilà. Alors, écoutez, on va continuer à en parler dans un instant. C'est un constat, Sylvain Maillard. L'info à 20h10, Lauriane Delanoë.
Vous vous apprêtez à partir en long week-end. Préparez surtout votre retour. Lundi soir, la SNCF prévient très peu de trains circuleront après 19h. Début de la grève contre la réforme de la compagnie. Un appel à la grève générale dès demain dans les magasins Carrefour. Les syndicalistes annoncent qu'il y aura entre 70 et 80% de grévistes. Mobilisation contre les suppressions d'emplois a annoncé 2400 départs en France et contre la baisse nette des primes à la participation. 40 ans en prison pour meurtre et bientôt la liberté. Michel Cardon, l'un des plus anciens détenus de France, obtient sa libération conditionnelle. Âgé aujourd'hui de 67 ans, il sortira de la prison de Bapaume dans le Pas-de-Calais en juin prochain. Des affrontements entre manifestants palestiniens et soldats israéliens à la frontière de la bande de Gaza. Au moins 12 Palestiniens tués, des centaines de blessés. Ils se rassemblaient pour la grande marche du retour. Ils réclament le droit de retourner en Israël. Il était connu pour son rôle de président de la principauté de Groland, l'émission satirique de Canal+. Le comédien Christophe Salengro est mort ce matin à 64 ans. Un homme irremplaçable pour son collègue présentateur Jules-Édouard Moustique.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la situation en fac. Et encore une question à vous, Hervé Christophe. Après, je vous libère. Vous êtes secrétaire général SNEP SUP FSU. C'est l'un des syndicats de l'enseignement supérieur. Est-ce que, imaginons aujourd'hui, la ministre enlève sa réforme. Est-ce que tout simplement, plus de moyens, simplement construire davantage, est-ce que d'amphi, est-ce que c'est ça la solution? On arrête et tout est réglé?
Eh bien, c'est ce qu'on a réussi à imposer en 86. C'est ce qu'on a réussi à imposer en 68. D'accord. Et que je sache, la société s'en est bien portée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, on a besoin d'un plan d'investissement important dans la construction universitaire. On a besoin d'un plan d'investissement important dans le recrutement des enseignants-chercheurs. Alors, c'est pas 1 milliard sur le quinquennat qu'il faut. D'accord. C'est à minima 1 milliard par an. D'accord. Donc on voit que on est très en deçà de l'investissement nécessaire. D'ailleurs, le gouvernement le sait bien puisque on va accueillir 40 000 étudiants de plus chaque année pendant 5 ans.
Et Sylvain Maillard, vous voulez répondre?
Après, je ne veux pas rentrer dans une querelle de chiffres. Moi, je suis fondamentalement, j'entends ce que vous dites et que l'université soit largement dotée parce que c'est notre avenir. C'est là où on va construire les parcours de demain de ceux qui vont construire notre société. Évidemment, il faut mettre les moyens. Moi, je fais confiance au gouvernement. On est dans un contexte quand même de finances publiques. Enfin, on n'est pas sorti d'un seul coup. Tout va bien. On a 100% de dette. On a des choix politiques. On s'est engagé 700 millions dès cette année. Un budget important, 1 milliard sur le quinquennat. Et puis, déjà, utilisons bien cet argent. Utilisons bien cet argent.
Voilà, en tout cas, Hervé Christophe, vous voyez, en tout cas, on verra ce qui va se passer pour la suite, puisque les mouvements étudiants risquent de durer. En tout cas, c'est ce qu'eux espèrent. J'imagine qu'on aura l'occasion de vous recontacter. Merci beaucoup. Je précise que vous êtes secrétaire général SNEPSUP FSU, l'un des syndicats de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup d'être passé ce soir aux informés de France Info.
Merci pour votre attention.
C'est tout de même étonnant que pour certaines personnes, il est plus facile de comprendre le concept des cloches venant de Rome avec des petites ailes pour déposer du chocolat dans nos jardins qu'un conflit social. Alors, bon, je sais que ça existe, des cloches qui volent, mais personne n'y trouve rien à redire. En tout cas, pour la direction de la SNCF, la grève des cheminots la semaine prochaine est jugée, je cite, comme inappropriée. Bon, alors ce matin, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a présenté le calendrier de l'ouverture du rail à la concurrence et il est... Eh bien, un peu plus étalé qu'on ne le pensait. Ainsi, dans toutes les régions, l'ouverture à la concurrence se fera, eh bien, à partir de décembre 2019 pour le TER et en décembre 2020 pour le TGV. Mais les régions bénéficieront de délais allongés pour remettre en cause les contrats de la SNCF en Île-de-France. C'est un peu plus long puisqu'il ça pourrait aller jusqu'en 2039. Du côté de la direction, la société ferroviaire, on gère le futur mouvement et le président de la SNCF met en garde pour ce week-end Pascal Guillaume Pépi.
On est vraiment aujourd'hui à inviter les voyageurs à réfléchir, à prendre leurs précautions pour ne pas se trouver surpris. Les organisations syndicales qui souhaitent une perturbation maximum ont parlé de 1 sur 10. On va attendre samedi soir pour avoir le cœur net. Il y a des gens qui devaient rentrer très tard lundi soir et qui devront annuler parce qu'encore une fois, imaginons qu'il y ait un train sur 5 ou un train sur 8. On ne pourra pas, dans ces conditions, transporter la totalité des voyageurs qui devaient voyager lundi soir.
Guillaume Pépi, président de la SNCF, ce matin sur France Inter. Étienne Girard, est-ce qu'il y a un peu plus de prudence maintenant de la part du gouvernement quand on a vu les annonces d'Elisabeth Borne qui, finalement, recule un petit peu?
Alors, il y a une volonté d'aplanir les angles et de ne pas exciter inutilement des cheminots qui sont déjà extrêmement remontés.
Ouais.
En revanche, sur le fond, c'est-à-dire sur la question de savoir est-ce que la réforme va se faire ou non, j'ai l'impression que le gouvernement est absolument inflexible. C'est-à-dire que, alors, on nous dit on va rallonger les délais de quelques mois, ça ne change absolument rien sur le nerf, sur l'os, si je puis dire.
C'est ça.
Et donc, ça ne va changer absolument rien sur la mobilisation des cheminots. Et donc, il y aura aussi peu de trains qu'on pouvait s'y attendre.
Et Emmanuel Pierra, c'est quoi? On peut parler de bras de fer véritablement maintenant entre le gouvernement, les cheminots, bataille de l'opinion, ça pourrait durer 3 mois. Voilà, c'est vraiment un.
Non pas l'opinion pour eux, mais c'est pas parce qu'on a l'opinion contre soi a priori qu'on a tort. J'ajoute, quand j'entends Guillaume Pépi parler comme ça, on dirait il crie au feu pour ne pas être accusé de l'incendie dont il est finalement co-responsable et qu'il est en train d'allumer. Donc ça me dérange toujours, ce genre de parachute, puis avec des manœuvres sur une éventuelle transformation qui serait son dernier grand chantier. Voilà. Mais au-delà de ça, encore une fois, on est face à quelque chose. Tout à l'heure, vous parliez de finances publiques. Moi, je pense service public à chaque fois, comme pour l'université. Et je ne peux pas accepter l'idée selon laquelle on malmène le service public en s'en prenant à une catégorie de personnes qui sont présentées, on va dire, comme des privilégiés, ce qui est faux. Ça me pose une vraie difficulté. Quelles que soient les statistiques sur le nombre de petites lignes, sur le nombre de petites gares, le mouvement général de libéralisation, le mouvement qui consiste à supprimer des endroits où le service public est plus que nécessaire, comme la poste, comme l'école, comme le tribunal d'instance. Ouais, donc voilà, tout ça me dérange profondément. Ça fait pas de moi un utilisateur satisfait, évidemment, de se cogner des grèves. Nous sommes d'accord, ni le chef d'entreprise que je suis, mais il faut bien être réaliste. À un moment, je pense que seul le bras de fer permettra de l'emporter.
Sylvain Maillard.
Quelle est la situation à l'heure actuelle de la SNCF? Tous les ans, nous remettons 14 millions, nous, tous ensemble, la collectivité met 14 milliards dans le fonctionnement de la SNCF. Est-ce que le service s'améliore? Non. Est-ce que l'on peut continuer avec en plus 3 milliards de dettes supplémentaires qui se creusent? On arrive à plus de 50 milliards. Est-ce que les cheminots en sont responsables? Non. On n'a pas dit que les cheminots en étaient responsables.
Si on a juste dit que. Vous l'avez dit au départ. Vous l'avez stigmatisé au départ.
C'était une
erreur.
On l'a toujours dit.
C'était une erreur.
On a dit au contraire. Ce n'est pas vrai. On a porté la responsabilité en disant c'est l'État qui a été un mauvais gestionnaire, qui a, par exemple, construit. Mais je vous. Attendez, je vous dis clairement les choses. Je dis clairement, on a construit des TGV, on a mis l'intégralité des moyens sur des TGV qui n'étaient pour certains d'entre eux des lignes pas rentables. Bref, on a plongé la SNCF aussi dans la situation dans laquelle elle est. Nous, on a toujours dit, la ministre l'a toujours dit, les négociations sont ouvertes. Plusieurs points. L'ouverture à la concurrence. On a toujours dit que la discussion était ouverte dessus. Donc, vous avez l'air d'être surpris du calendrier, mais on a dit que la discussion était ouverte.
Non, mais,
la
portabilité aussi des cheminots. Vous avez entendu ce que disent les syndicats.
Et je ne veux pas oublier une chose. Les cheminots garderont leur statut jusqu'à leur retraite, s'ils restent à la SNCF.
C'est pour les nouveaux embauchés.
Et c'est pour les nouveaux entrants, ils auront un statut classique de l'ensemble des gens qui sont autour de cette affaire, souvent en CDI,
Non, mais on sait une chose aussi, c'est des méthodes managériales assez classiques. Les syndicats disent aujourd'hui, ça sert à rien de négocier puisque tout est déjà écrit.
C'est pas vrai. On doit discuter aussi de la carrière des cheminots, c'est-à-dire de l'avancement et la discussion sur la carrière des cheminots. De la portabilité aussi de leur statut quand ils vont changer, s'ils partent, par exemple, sur une entreprise concurrente de la SNCF, dans la même branche, de pouvoir garder ce qu'on appelle sac à dos social, c'est-à-dire de pouvoir garder ce statut. L'ouverture du rail est aussi dans la négociation. Les portes sont ouvertes de la ministre, il y a discussion. Et d'ailleurs, qu'on soit très clair, les discussions continuent à l'heure actuelle. Donc voilà, on comprend bien qu'on est dans un bras de fer, on comprend bien aussi qu'on est dans une situation où il y a des élections à la fin de l'année, élections dans les syndicats, donc évidemment que nous sommes un peu otages tous de cette situation.
On va y revenir dans un instant. L'info à 20h20, Lauriane Delanoë.
Les représailles du Kremlin dans l'affaire Skripal, c'est un ancien agent double empoisonné en Angleterre. La Russie décide d'expulser 4 diplomates français, autant d'Allemands. Mesure de rétorsion contre 23 pays en tout qui eux-mêmes renvoient des représentants russes. Le Royaume-Uni et ses alliés jugent la Russie coupable de la tentative d'empoisonnement. Il est l'un des plus anciens détenus de France. Michel Cardon, condamné à la perpétuité pour un meurtre il y a 40 ans, sortira de prison en juin prochain. Libération conditionnelle accordée par le tribunal d'application des peines d'Arras. La justice gèlera-t-elle les avoirs de Johnny Hallyday? Réponse dans 2 semaines, le 13 avril, après l'audience en référé cet après-midi à Nanterre. Les deux aînés du chanteur David Hallyday et Laura Smet contestent le testament de leur père qui cède tout à son épouse Laetitia. France Loisirs s'apprête à supprimer un quart de ses emplois en France, 450 postes sur 1800. La direction assure que c'est une mesure d'urgence nécessaire. La société de vente de livres par correspondance en redressement judiciaire depuis décembre. Faut-il construire un village olympique plus petit? Voici l'une des pistes suggérées par l'Inspection générale des finances pour éviter de dépasser le budget prévu pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Les travaux pourraient coûter jusqu'à 500 millions d'euros de plus que prévu.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, vous le savez maintenant, la grève à SNCF commence officiellement donc mardi et mercredi prochain, mais il pourrait y avoir des perturbations dès lundi soir. C'est Guillaume Pépi qui en parle, le président de la SNCF. Donc attention quand vous rentrez de ce week-end, de ce long week-end, puisque lundi est férié, week-end de Pâques oblige. Éric Scholl, c'est vrai, quand les syndicats, je disais ça, évoquent le fait que ça ne sert à rien de négocier puisque tout est déjà écrit. Je reprends cette phrase. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi travail, où ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir inflexer quelque chose. Il y a eu ensuite d'autres négociations. On a l'impression que maintenant, les syndicats vont avec des semelles de plomb dans ces négociations, en fait, non?
Écoutez, moi, je vais vous dire, je vais pas me faire des amis ici ce soir, mais on a eu une version le conservatiste Emmanuel Pierra, ok, c'est-à-dire qu'on a le service public 1945, on n'y touche pas et on regarde pas comment on fera les trains, les SNCF de 2045. Et c'est ça qui nous intéresse ce soir. Et on a la communication, l'aspect, on ne fait que communiquer. Et entre les deux, effectivement, il y a un moment, il doit y avoir du dialogue, il doit y avoir de la négociation. Et c'est là où le gouvernement,
elle existe.
Non, elle a pas eu lieu. Et à mon avis, il y a une erreur dans la communication dès le départ là-dessus. Il fallait montrer qu'il y a un réel espace, pas un truc factice où on dit on va dialoguer, un vrai espace de communication, de dialogue, de façon à ce qu'il puisse y avoir une vraie négociation sur un vrai sujet qui profondément, on voit à quel point c'est ancré dans une culture française, et c'est là où on doit pouvoir avancer.
Emmanuel Pierre, hein. Conservateur.
Non, je suis le plus progressiste des conservateurs, même si je suis conservateur de musée dans le oui. Civil par ailleurs. Donc, je ne peux que réagir en entendant de la part de Sylvain Maillard, qui est un homme intelligent, mais quand même les mots rentabilité et gestionnaire, c'est même discours.
Ni l'un ni l'autre.
Si vous avez dit rentable tout à l'heure, rentable.
Non, j'ai dit que ça coûtait 14 milliards par an.
Et effectivement, on est dans de logique.
C'est plus que la police le budget de la police et de la gendarmerie. Il faut quand même se rendre compte des sommes que l'on met.
J'ai bien compris, mais vous n'allez pas nous dire que la police et la justice doivent aussi être rentables, ça
mais
me pose un vrai souci.
Je n'ai jamais prononcé le mot rentable.
Donc effectivement, nous ne pouvons être qu'à front renversé, je vous l'accorde, Éric Scholl, sur ce genre de questions. Donc le service public ne peut pas être rentable, par définition. Après que vous vouliez en améliorer la gestion, pourquoi pas ? Évidemment, c'est un souci logique. On va dire que ça ne mange pas de pain, de le dire. Donc, et au-delà de ça, moi, je ne vois pas d'autre solution que vous proposez, puisque vous me reprochez de ne pas en avoir tout à l'heure. Mais,
C'est ça. Alors, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, il y a eu aussi une sorte de, quand on parle de bataille de com. C'est assez étonnant parce que on voit les syndicats qui ont opté pour une grève assez originale de leur part. Et puis maintenant, donc c'est la réponse donc de la SNCF qui dit, qui considère que leur grève par épisode de 2 jours sur 5 mois pendant 3 mois n'est qu'un seul mouvement social. Donc ceci permettra au groupe de considérer certains jours de repos comme jours de grève, donc non payés. On voit cette polémique qui commence à monter. Donc c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent.
Évidemment, là, on est dans un bras de fer. Faut pas se voiler la face. Hein. On nous explique qu'il y a un dialogue qui se poursuit entre les syndicats et le gouvernement. Mais qu'il y a encore 3 parenthèses et 2 virgules en discussion. Oui, mais est-ce que c'est... Alors, le dialogue, c'est possible qu'on retrouve Édouard Philippe et la CGT main dans la main. Ah, finalement, on garde le statut des cheminots. Non, c'est déjà...
Non, mais le problème de la SNCF, c'est le statut des cheminots. Je crois que que le problème de la SNCF, c'est le statut
partie.
Des cheminots,
bah,
mais c'est une
question
erreur.
Importante.
Le problème de la SNCF, c'est est-ce que la SNCF va survivre dans un élément, dans une conjoncture concurrentielle.
Pourquoi
on vous parle du statut de cheminots ? C'est pas nous qui avons décidé que ce serait concurrentiel.
Pourquoi on vous parle du statut de cheminots ? C'est parce que Édouard Philippe en premier a évoqué ce statut en premier. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a ensuite axé le débat très peu finalement sur la dette. C'est le statut de cheminot qui a pris l'ampleur des débats, qui a pris le lead là-dessus. Est-ce que finalement il n'y a pas eu une faute au début en axant que là-dessus et pas sur les 40 milliards de dettes ?
Moi, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. Alors, dire, vous suis parti pris, oui, évidemment. Qu'on a bien expliqué, on a bien posé le problème de la survie de la SNCF. Qui a des vrais problèmes, un problème de survie de la SNCF. Et que les cheminots n'étaient pas responsables de la situation dans laquelle ils étaient. Par contre, pour l'avenir de la SNCF, le statut de cheminot pose un souci parce que la SNCF sera, du coup, beaucoup plus chère. Les billets de train seront beaucoup plus chers. Elle sera beaucoup moins agile pour évoluer dans un contexte concurrentiel. Ça, c'est la réalité des choses.
Oui.
Donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est discuter avec les cheminots sur leur avenir, sur leur évolution de carrière aussi. Parce que, vous avez raison, on n'a jamais prononcé le mot de privilégié. Un cheminot n'est pas privilégié. Mais son statut en lui-même bloque un certain nombre d'évolutions, entre autres son accès à la formation professionnelle dont je m'occupe avec nos députés.
Ouais.
On a des problèmes de formation professionnelle et puis on a un problème managérial à tous les niveaux dans la SNCF.
Donc c'est Guillaume,
un cheminot me disait pour qu'il y en ait un, il y en a un qui travaille et il y en a 10 qui surveillent.
Alors,
donc il y a aussi un problème de remise à plat d'organisation.
C'est
caricatural, mais je crois que c'est important de dire qu'à un moment, il faut remettre à plat et pas rester bloqué sur un système des années 45.
Vous l'avez dit, ce qu'on a du mal à saisir, c'est pourquoi le gouvernement a de nouveau accordé sa confiance à Guillaume Pépi. Emmanuel Pierre en parlait, puisqu'il y a un problème managérial. C'est là où ça semble bizarre.
Non, mais c'est pas la tête. Il faut arrêter de penser
qu'on change tous les niveaux.
C'est l'organisation même. Moi, je veux bien qu'on dise que tout va bien à la SNCF, mais enfin,
ça
coûte de plus en plus cher, le service se dégrade, et les cheminots ne sont pas heureux de la façon dont est organisé leur management. Il faut entendre tout ça, donc il faut réformer.
une dernière chose, Éric Scholl, on parle souvent de l'Europe. La France est l'un des derniers pays à ouvrir donc son rail à la concurrence. On parle souvent du modèle britannique qui a été qui s'est très mal passé. Ailleurs, ça s'est mieux passé.
Mais qui s'est pas si mal passé d'ailleurs que ça. Mais enfin bon,
c'était au départ catastrophique. On n'est pas souvent en train en Angleterre,
Éric Scholl. Et enfin, ça s'est mieux passé ailleurs ou pas? Enfin, je crois qu'au Danemark ou ailleurs, ça a été plutôt mieux accueilli.
Ça dépend. Il faut prendre pays par pays. Si vous prenez l'Allemagne, c'est pas forcément formidable. Je crois qu'on a une chance en France, c'est que ça fonctionne jusqu'à présent, mais on voit bien, et je crois que Sylvain Maillard a quand même rappelé, que on a laissé, c'est l'incapacité qu'on a de pouvoir projeter notre modèle aujourd'hui à plusieurs années, aussi pour des raisons d'abord financières. Faut les poser, ces questions financières.
Allez, dans un instant, on va parler justice, on parlera également d'un sondage France Info, on parlera également de politique internationale. C'est complet, c'est normal, c'est le dernier informé avant le week-end, donc on vous laisse pas tomber. Allez, on revient dans quelques minutes.
Néandertal, une exposition au Musée de l'Homme avec France Info. Plongez dans le récit de la préhistoire, à la redécouverte de l'homme de Néandertal. Fossiles, moulages, illustrations contemporaines, plus de 250 objets exposés autour de cette figure majeure de l'aventure humaine, plus proche de nous qu'on ne le pense. Néandertal, actuellement au Musée de l'Homme, à retrouver sur France Info.
France Info Météo, avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un début de week-end agité, une nouvelle vague orageuse va traverser le pays demain. En matinée sur la moitié ouest, on aura des averses fréquentes avec de l'orage, du vent fort. Des averses et des orages aussi, des Alpes à la Corse. Il neigera en montagne, entre 800 et 1000 mètres. Entre les deux, ce sera plus calme, lumineux sur le Jura et sur l'Alsace. L'après-midi, ce sera changeant avec des averses. C'est des Pyrénées vers le Massif central, la région parisienne, qu'elles seront les plus marquées, parfois avec de l'orage. Ça restera très agité en Corse aussi. On trouvera quelques éclaircies, souvent timide, mais plutôt belle vers la Lorraine, l'Alsace, de la baie de Seine au Pas-de-Calais, vers les Charentes et autour de la Méditerranée. On aura souvent 8 à 13 degrés au nord, 10 à 18 au sud. Dimanche, ce sera plus calme, encore quelques averses pour le nord et l'est. Lundi, un temps plus printanier, plus doux, 16 degrés de moyenne au nord, 19 au sud. On aura des éclaircies, plus de nuages au nord de la Loire et quelques gouttes vers la Manche.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Jules Dequise, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La Russie va expulser 4 diplomates français de son sol. Mesure de représailles après des sanctions identiques de Paris contre Moscou. Nouvelle réplique de l'onde de choc Skripal, l'empoisonnement d'un agent double en Angleterre. Le Kremlin qui renvoie également une soixantaine de Britanniques au Royaume-Uni. À la frontière entre Israël et la bande de Gaza, la tension reste très vive ce soir. L'armée israélienne a tiré à balles réelles sur des manifestants palestiniens qui auraient lancé des pierres et des engins incendiaires. Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza décompte au moins 12 morts, dont un mineur de 16 ans. L'armée israélienne a aussi frappé 3 positions du Hamas. Hamas qui soutient la manifestation entamée aujourd'hui pour demander des droits pour les réfugiés palestiniens. Elle doit durer 6 semaines avec notamment l'installation d'un village de tentes à quelques mètres de la frontière avec Israël. Il se présentait comme un opposant politique, un journaliste. Un réfugié d'Azerbaïdjan a été ciblé de plusieurs tirs à Colomiers près de Toulouse. Sa femme est morte, lui est très gravement blessé. Le couple avait porté plainte pour menace de mort il y a quelques jours. Nouvelle étape judiciaire dans l'affrontement qui oppose les premiers enfants de Johnny Hallyday à sa dernière épouse sur la succession du chanteur. Le tribunal de Nanterre a examiné cet après-midi les griefs de David Hallyday et Laura Smet. Ils demandent le gel des avoirs de leur père ainsi qu'un droit de regard sur l'album enregistré par Johnny juste avant sa mort. L'opus doit sortir cette année. Au cœur de la bataille, il y a aussi le dernier testament du chanteur et les sociétés qui abritent ses biens ainsi que ses droits d'auteur. Elles sont en droit américain et Laetitia Hallyday en est la seule bénéficiaire, Yann Bertrand.
Pas de côté obscur d'un côté, manque de transparence de l'autre. Les débats ont été techniques, denses, animés parfois. Du côté de Laetitia, on parle d'une femme meurtrie, Laura Smet souffrant, elle, d'une douleur immense selon l'un de ses avocats. Mais il ressort aussi, et peut-être surtout de cette audience, la promesse de déchirement prochain autour du testament signé par Johnny Hallyday à Los Angeles. Et au premier plan, cette question, le chanteur était-il un citoyen américain ? Cela change tout et Emmanuel Ravanas, conseil de Laura Smet, le sait bien.
Et nous considérons que la succession de Johnny Hallyday est une succession qui doit être appréhendée par le droit français, devant le juge français, Nous avons un certain nombre de débats sur la question de la résidence habituelle, sur la question du pays avec lequel Johnny Hallyday entretenait les liens manifestement les plus étroits. Mais à la fin, nous aboutirons à la conclusion que chacun connaît par avance, c'est que Johnny Hallyday est une part de la France, c'est que Johnny Hallyday est un destin français.
Pas de grande révélation, on ne sait toujours pas qui est le gestionnaire du trust désigné par Johnny pour abriter ses biens. Dans deux semaines, la fin de l'audience en référé donnera peut-être un droit de regard aux aînés sur le dernier album de leur père, mais elle annoncera surtout d'autres débats et une autre procédure sur le fond, et celle-ci devrait durer bien plus longtemps.
Le compte-rendu d'audience de Yann Bertrand. C'est fini pour La Rochelle en Coupe d'Europe de rugby. Les Maritimes s'arrêtent en quart de finale de la Champions Cup. Ils s'inclinent à l'instant contre les Gallois de Clanecli 29 à 17. Et puis le footballeur brésilien Neymar va rentrer à Paris dans 2 à 3 semaines, annonce de son entraîneur Unai Emery. Pour l'instant, l'attaquant vedette du PSG est au Brésil où il soigne sa cheville blessée. Il est 20h33 sur France Info. Nous retrouvons Jean-Mathieu Pernin et ses invités.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et ils célèbrent un petit peu le jamboree de l'actualité avant de partir en week-end. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocat Emmanuel Pierrat, le député de Paris, La République En Marche, Sylvain Maillard, Éric Scholl, directeur de Courrier International, et Étienne Girard de Marianne. Est-ce que là, ça n'irait pas un peu trop loin? Parce que qu'on bloque les facs, bon. Ça passe, hein. Qu'on bloque les trains, on peut marcher. Mais que l'on perturbe l'audience en référé du procès sur la succession de Johnny Hallyday, là, non. Hein, voilà, l'acte est d'une violence inouïe. Elle laissera sûrement des traces. Une action pour souligner à Nanterre, hein, voilà, à côté de Paris, la journée dite justice morte, une mobilisation inédite, hein, rassemblant juges, avocats et greffiers ensemble contre eux. Cette fois-ci, après l'université, la SNCF, la justice. Cette nouvelle loi promet un budget en hausse pour atteindre les 8,3 milliards en 2022, ainsi que 6 500 postes supplémentaires. Surtout, elle ambitionne de simplifier l'accès aux droits pour tous. Et c'est là où ça devient urticant pour les professionnels, puisque pour eux, le gouvernement ferait tout pour que les Français saisissent moins la justice, comme l'explique cette avocate qui manifestait à Rennes, Maître Marivonne Lozarchmer.
Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des petits barreaux et des justiciens qui devront faire des centaines de kilomètres pour accéder aux juges. Quand ils pourront accéder aux juges, parce que maintenant on nous dit bah, vous allez résoudre vos problèmes sur Internet, c'est pas acceptable.
Voilà Marivonne Lozarchmer, donc avocate donc qui manifestait à Rennes aujourd'hui. Emmanuel Pierrat, est-ce que vous avez compris aussi ce mouvement aujourd'hui contre la réforme?
J'étais en grève, cher ami, donc cher Jean-Mathieu Pernin. Donc oui, je crois que je l'ai compris, j'y ai participé. Et c'est pour ça que je bouillonne peut-être après une journée de supposée inactivité. Je comprends très bien, il y a pour la première fois depuis longtemps une intersyndicale, magistrats, avocats, greffiers, qui s'oppose avec le Conseil national des barreaux, l'Ordre des avocats du barreau de Paris, la Conférence des bâtonniers, bref, tout le monde, sauf les avocats de Johnny Hallyday, dans l'affaire Hallyday, et les juges qui ont participé, parce que la télé rend fou et fait oublier toute contrainte sociale ou toute cause progressiste. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que effectivement se reproduit quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir se reproduire, c'est-à-dire une contrefaçon de Rachida Dati. Il y a 10 ans, Rachida Dati supprimait des tribunaux. C'était une façon pour alléger, pour ne pas avoir à ce que la justice, quand on la rend, coûte trop cher, il suffit de pas la rendre. Donc il suffit de supprimer des tribunaux et de rendre l'accès aux tribunaux plus difficile. Et là, Nicole Belloubet, c'est une contrefaçon, alors sans le PEPS de Rachida Dati, mais c'est une pure contrefaçon, une copie.
Mais tout eux disent c'est pour désengorger aujourd'hui les tribunaux, il faut que ça aille finalement...
On a un problème, nous sommes d'accord. Il y a un constat sur lequel on sera d'accord, et je pense que Sylvain Maillard même sera d'accord avec moi. Constat, c'est la lenteur, l'engorgement général des tribunaux. Il y a deux façons de régler le problème. Hein. Il y a une solution qui est très bête, le budget. Il y a un effort, mais il est loin, c'est comme pour l'université, d'être suffisant.
3,9%.
C'est très loin d'être suffisant. Nous sommes...
D'augmentation.
Nous sommes 25e pays dans l'Union européenne par rapport à ce que devrait être le budget de la justice.
L'effort est important.
On est juste avant la Roumanie. Et on peut dire que la Roumanie soit l'exemple même d'une démocratie qui traite bien sa justice et ses prisons. Je dis ça sans acrimonie contre les Roumains. Non. Mais là, on a vraiment une pente à remonter extrêmement importante qui ne peut pas être remontée à coût de 7%. C'est à peu près l'augmentation qui est prévue en l'étalant sur 5 ans. Et là, il y a une vraie difficulté. Donc, ça craque de partout. Ça craque dans les prisons, on l'a vu il n'y a pas longtemps, ça craque dans les tribunaux, les délais sont devenus délirants, et on propose, pour simplifier la chose, de dire aux gens qu'ils vont devoir, par exemple, passer par une médiation. Ce qui est très beau comme principe, sauf que cette médiation va être payante.
Payante, c'est ça.
Donc, aujourd'hui, la médiation, elle existe déjà. Quand vous allez au conseil de prud'homme, vous devez officiellement passer devant une audience de conciliation. Quand vous allez au juge d'affaires familiales pour votre divorce, vous devez d'abord tenter de concilier. Elle existe déjà dans un nombre de sphères incroyables. Mais
c'est ça. En fait, alors je précise aussi,
et la rente payante.
C'est ça. Il y a par exemple aussi il y a une pension alimentaire qui pourrait être fixée ou révisée par un organisme comme la CAF, par exemple, hein, qui pourrait. Ça c'est aussi.
C'est tout sauf la justice. La justice, c'est quelque chose qu'on l'individualisation de la peine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un être humain à un moment ou à un autre et pas un logiciel. Même une intelligence artificielle, ça ne suffira pas pour rendre des décisions de justice. La justice, ça doit être quelque chose de proportionnel, humain, individuel.
On voit à quel point, à chaque fois, c'est un sujet sensible, hein, bien sûr, sur la justice. On voit tout de même aujourd'hui une justice lente parce que les tribunaux sont totalement engorgés. Mais par exemple, quand on voit des décisions comme... C'est Édouard Philippe hein, qui a fait ça, c'est un test. Aujourd'hui, des magistrats pourraient remplacer des jurys populaires. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça changerait véritablement quelque chose et est-ce que ça vous semble grave, important,
Oui, c'est forcément grave. C'est, est-ce que c'est un changement de principe? Mais sur le fond, maintenant, je vois depuis le début de cette émission, on a parlé d'université, on a parlé de la SNCF, on parle maintenant de la justice et à chaque fois, on en revient à cette question de moyens. Et je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Perra, il faut plus de moyens pour la justice. Je me rends compte aussi, comment fait-on pour trouver tout cet argent là-dessus, est-ce que vous avez une réponse, Emmanuel Perra?
Alors, je n'ai pas de réponse, mais c'est certainement pas, pardon, en faisant payer le justiciable, en plus, pardon, des honoraires d'avocat, et déjà l'aide juridictionnelle est en très mauvais état, c'est-à-dire que des tas de gens n'ont pas accès à la justice de façon discriminante hein, par l'argent. Aujourd'hui, il faut être vraiment, vraiment à des niveaux de revenus qui sont quasiment à zéro pour avoir droit à un avocat qui est pris en charge de façon décente par l'État et qui plaide pour vous. Là, il faudrait en plus, en quelque sorte, payer une taxe. Il y a déjà une taxe. Hein. Il y a un droit de plaidoirie que payent les concitoyens quand ils vont en justice. Il y a déjà des tas de taxes. Je vais y arriver. Là, je ne suis pas sûr qu'il faille, là, pour le coup, et je ne rigole pas du tout, rendre rentable ou facturable la justice.
Alors,
je ne sais pas, pardon, où trouver l'argent, très sincèrement. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la seule solution. Là, c'est pas un problème de management, c'est pas un problème de gestion,
c'est un problème de moyens.
C'est pas un problème d'organisation. Le système, pardon, fonctionne à condition qu'on mette de l'huile ou du quelque chose dans le moteur. Voilà. C'est aussi bête que ça.
Sylvain Maillard, quand vous entendez là justement, c'est encore voilà, c'est vrai que c'est problème de moyens.
Oui, depuis tant et tant et tant d'années, les difficultés s'accumulent. On a des décisions de justice qui mettent des années et des années. Est-ce qu'on rend la justice 2 ans, 3 ans, 4 ans après d'avoir saisi un tribunal? Non, clairement. Est-ce que c'est satisfaisant? Non, clairement. Moi, je voudrais juste rappeler une chose. C'est que Nicole Belloubet l'a dit et redit encore mercredi dans l'hémicycle. Il n'y aura pas de fermeture de tribunaux. Il n'y aura pas de fermeture de tribunaux. Donc quand j'entends vous dire on fait du Rachida Dati bis, c'est faux. Il n'y aura pas de fermeture. On augmente les moyens. Probablement,
on
fait un effort, c'est prioritaire pour nous. On augmente les moyens et surtout on va investir dans le grand plan d'investissement. On met beaucoup d'argent parce qu'il faut investir. On a aussi des problèmes tout simplement d'informatique, de gestion, moyens de communication qui est très obsolète.
Vous savez qu'on est très informatisé. Hein, par ailleurs, on déménage le palais de justice de Paris dans 15 jours, ce qui est une absurdité parce qu'on l'a décidé au moment où effectivement on n'avait pas encore inventé l'informatique dans les palais de justice. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien et on déménage simplement parce que l'État n'a pas voulu se désengager d'un projet pour lequel il aurait fallu indemniser Bouygues qui construit le sympathique nouveau palais de justice. Donc on marche sur la tête. La véritable solution, ça n'est pas de supprimer des tribunaux et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous allons supprimer des tribunaux avec un effet trompe-l'œil. Laissez-moi terminer parce que c'est technique et les fake news, ça va 5 minutes, mais pas sur tous les sujets.
Allez-y, Emmanuel Pierre.
Donc on va aller jusqu'au bout.
Alors oui, non.
Non, pas jusqu'au bout. Mais
d'une minute. Jusqu'au bout, je vous le dis.
Une minute. Officiellement, on ne fait pas un tribunal, on dit simplement que 90% des affaires vont devoir être plaidées dans une juridiction spécialisée à 150 km. C'est-à-dire qu'on va garder le frontispice, on va garder les marches, et il n'y aura pas de juge pour traiter les affaires des gens. C'est aussi bête que ça. Ça s'appelle une fermeture par défaut.
On va continuer à en parler dans un instant, l'info à 20h41, avec beaucoup de... Désolé, en tout cas, Lauriane Delanoë.
Il va redécouvrir la liberté après 40 ans en prison. Michel Cardon, 67 ans, obtient sa libération conditionnelle. Ce détenu parmi les plus anciens de France avait été condamné à la perpétuité pour le meurtre de son voisin en 1977. Son avocat indique sur France Info qu'il va rejoindre un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans le Val d'Oise. Laetitia Hallyday, présentée comme une manipulatrice hors pair. Son avocate qui accuse David Hallyday et Laura Smet de vouloir asphyxier financièrement sa cliente. Guerre judiciaire ouverte avec l'audience en référé cet après-midi à Nanterre. Les deux aînés de Johnny Hallyday demandent notamment un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Décision attendue dans 2 semaines. Le père du mari de Pippa Middleton, mis en examen par un juge d'instruction français pour viol sur mineur par une personne ayant autorité sur la victime. Le Britannique David Massieu en garde à vue ces derniers jours à la Brigade des mineurs de Paris pour des faits qui se seraient produits en 1998 et 99. Quatre diplomates français expulsés de Russie, décision prise par le Kremlin en réponse aux sanctions déjà annoncées par la France. Bras de fer diplomatique dans l'affaire Skripal, cet ancien espion russe empoisonné au début du mois en Angleterre. En tout, la Russie renvoie une soixantaine de représentants de 23 pays. La déception des rugbymen de La Rochelle, éliminés en quart de finale de Coupe d'Europe à l'instant. Défaite au Pays de Galles contre les Scarlets, 29 à 17.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle de justice. Aujourd'hui, c'était la justice morte, une journée justice morte où vous aviez des juges, des avocats, des greffiers qui se mobilisaient contre la réforme de Nicole Belloubet. Mais c'est vrai que la justice pourrait devenir rapidement un sujet prégnant dans ces prochains mois, notamment au niveau terroriste, hein, puisque nous sommes à une semaine après un attentat terroriste, hein, bien sûr, qui s'est produit dans l'Aude la semaine dernière. Et il y avait un sondage France Info d'Oxa qui montrait que 87% des Français interrogés plaident pour un placement en rétention administrative des fichiers S et pas moins de 83% sont pour l'expulsion des étrangers fichés S, mais ils seraient même favorables à la proposition de Manuel Valls d'interdire le salafisme sans donner un blanc-seing à Laurent Wauquiez. Étienne Gérard, est-ce que ça peut évoluer ou est-ce qu'on retrouve ce genre d'études maintenant après chaque attentat ?
Il me semble que à ce niveau-là, c'est la première fois qu'on a une majorité absolue est très large en faveur et de l'internement de certains fichiers S et de l'expulsion des fichiers S étrangers.
Étranger, ouais.
Je dois reconnaître un certain étonnement vis-à-vis de ce sondage-là. Manifestement, les sondés peut-être pensent que être fichier S, c'est être déjà coupable de quelque chose, mais il faudrait rappeler que être fiché S, c'est n'être coupable de rien. On peut être fiché S, et ça s'est déjà vu dans des affaires en cours aujourd'hui, on peut être fiché S par capillarité.
Bien sûr.
C'est-à-dire, on peut être fiché S parce qu'on est ami avec quelqu'un de radicalisé, par exemple. Donc là, à mon avis, il faut prendre des pincettes énormes avant de toucher au cadre juridique sur cette question-là.
Et rappelons-le, on n'interne pas sur un soupçon, et on n'expulse pas sur un soupçon non plus. Éric Scholl, on voit quand même que ces mesures aujourd'hui, c'est-à-dire des mesures assez fortes, assez dures, on voit aujourd'hui, ont l'appui de la population, parce qu'il y a eu un moment, il y a une sidération, il y a un moment, il y a un ras-le-bol véritable, un dégoût aussi par rapport à ce qui se passe.
C'est exactement ça. C'est de la sidération et c'est en même temps que cette sidération, ce sentiment d'impuissance parce que ces attentats reviennent et ce côté, bah, finalement, on n'y arrive pas. Et donc finalement le recours, mais un recours via des sondages, je veux dire, dans la réalité, on voit bien que c'est pas ça, heureusement, qui va se passer. Mais c'est peut-être se dire finalement peut-être qu'il y a des solutions qu'on n'a pas essayées qui pourraient fonctionner. On sait que ces solutions ne peuvent pas fonctionner. On sait que ce sont des mauvaises solution. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en conscience, en compte, cette sidération de la part de nos concitoyens qui est exprimée par ces sondages. C'est-à-dire cette peur, je crois qu'on retrouve la même peur qu'on a vue au cours des précédents attentats, se dire que ce n'est pas fini, on est toujours une cible, ça peut se reproduire, et cette incompréhension aussi et si vous voulez, quand on parle de ces fichiers, savoir je pense qu'il y a un énorme travail de pédagogie qui est fait, mais qu'il faut en permanence faire pour comprendre qui sont-ils, comment peut-on mieux les surveiller et pourquoi, et s'ils sont fichés S, tout d'un coup, ils passent à l'acte et qu'on n'arrive pas à repérer ce moment où ils vont passer à l'acte. C'est extrêmement difficile, on l'a compris, mais il faut continuer à faire ce travail de pédagogie.
Sylvain Maillard, est-ce que ça vous étonne justement ces chiffres qui sont assez importants, hein, je répète, 87% des personnes interrogées plaident pour un placement en rétention administrative des fichés S, jugés les plus dangereux, et pas moins de 83% sont pour l'expulsion des étrangers fichés. Chez S, ce sont des propositions qu'on fait Laurent Wauquiez. Hein.
Moi, je voudrais d'abord remercier pour les deux propos que je viens d'entendre, parce que je crois qu'ils sont suffisamment explicatifs de la réalité des choses. Il faut sortir du fantasme. Les fiches S, c'est un fichier de renseignement. Ce n'est pas un fichier d'accusation. Et donc, c'est un fichier de travail pour la DGSI.
S, ça veut dire sûreté, d'ailleurs.
Exactement. Vous l'avez parfaitement expliqué par la capillarité, n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver temporairement. Alors, sur ce fichier S.
Il y a différents niveaux dans les fichiers S.
Exactement. Donc, il faut sortir du fantasme. Nous, on veut répondre de façon pragmatique. Il faut qu'on augmente, nous avons commencé à le faire, nos renseignements, parce que c'est par les renseignements, le nombre d'attentats qui ont été déjoués, par les renseignements. Il nous faut plus de technicité, il nous faut plus d'intelligence informatique, numérique, pour pouvoir être beaucoup plus présent sur les réseaux, pour pouvoir suivre ce qu'il se passe et d'être un coup en avant. Parce que c'est ça, en fait, ce que nous demandent les Français, d'être un coup en avant. Et donc, pour ça, il faut des moyens supplémentaires. Nous avons commencé à recruter, mais c'est compliqué aussi de recruter des agents à la DGSI. On a budgété plus de 1700 postes, mais de trouver ceux qui vont nous amener à être un cran en amont. Et je voudrais vraiment, vraiment les remercier, parce que quand on sait le nombre d'attentats déjoués, parce que, pas grâce aux renseignements que nous avons, malheureusement, le Premier ministre l'a très bien dit, nous sommes dans une situation compliqué, et ça va continuer à l'être.
Alors, Emmanuel Perra, ce qui est assez étonnant, ce sont des propositions, je disais exprès, Laurent Wauquiez, donc lui, on a tout de suite parlé, mais dans le même sondage, il y a par exemple, est-ce que vous seriez pour un retour à l'état d'urgence? Ils disent, les Français, non, enfin, bon, voilà, c'est pas forcément une obligation, c'est pas ça. On voit que c'est vraiment axé là-dessus, sur fichier S, l'amalgame fichier S aussi étranger, forcément. On voit qu'aujourd'hui, il y a des mesures radicales que certains Français souhaitent vouloir prendre. Est-ce que c'est vers ce chemin-là qu'on se dirige?
En tout cas, les Français constatent que les mesures radicales et qui bafouent le droit n'ont pas fonctionné. L'état d'urgence n'a pas vraiment fonctionné.
Ouais, c'est ça, oui.
Malheureusement, c'était contre l'état d'urgence. J'aurais été presque prêt à changer d'avis, malgré mes principes, malgré ce que je pense du droit et de la justice, si ça avait fonctionné. Mais malheureusement, des attentats ont continué et nous sommes extrêmement désarmés. De la même façon que les assignations à résidence ne sont pas une solution. C'est pas en assignant à résidence de façon illégale, comme l'a jugé le Conseil d'État à nombreuses reprises, qu'on arrive à déjouer les candidats pour Daesh. Et notre difficulté, c'est de rester dans un cadre juridique extrêmement sérieux, extrêmement précis, parce que sinon nous tombons dans le modèle inverse. Et le modèle inverse, c'est celui que nous voulons combattre. C'est l'arbitraire, c'est la barbarie, c'est de Daesh à Guantanamo, hein, pour faire simple. Même si je mets pas, pardon, les présidents américains, quels qu'ils soient, dans la même bassine que les chefs de l'État islamique. Mais c'est ça notre grande difficulté. Et nous sommes désarmés. Augmenter les moyens de renseignement, sans doute. Mais nous avons déjà fait beaucoup. Et il faudrait sans doute rappeler à nos concitoyens que nous avons déjà des cours d'assises spéciales, uniquement composées de juges professionnels, pour éviter qu'il y ait la moindre pression ou la moindre peur sur les jurés. Nous avons déjà des gardes à vue extraordinaires, c'est-à-dire qui durent 96 heures en matière de terrorisme. Nous avons déjà, puis on le voit, on subit tous, entre guillemets, les fouilles de Vigipirate et 100 000 choses. Je ne suis pas sûr qu'effectivement les solutions soient du côté de Laurent Wauquiez. Je suis même convaincu qu'elles sont délirantes, populistes et inacceptables.
Et d'ailleurs, on le voit dans le sondage, autant il peut y avoir des propositions plébiscitées, mais lui-même n'est pas plébiscité. Voilà, en fait, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que ces propositions peuvent être appréciées par certains, mais pas le personnage, en tout cas, Laurent Wauquiez. Allez, l'info à 20h50 cette fois-ci. On est à l'heure, Lauriane Dehanoë.
L'appel de la Fédération des associations d'usagers de transport sur France Info, la FNOT, espère un accord le plus tôt possible entre le gouvernement et les syndicats de la SNCF. La grève contre la réforme de la compagnie commencera dès lundi soir 19h. Attention, la direction vous recommande de renoncer à vos déplacements. 450 emplois supprimés sur 1800 en France. Voici la mesure annoncée aujourd'hui par France Loisirs, le groupe de vente de livres par correspondance. La direction affirme que c'est urgent et nécessaire face à la crise. La société est en redressement judiciaire. Le corps d'un homme retrouvé dans la Seine mi-janvier à Paris. Deux mois après, la police lance un appel à témoins. La victime de 21 ans avait chuté dans le fleuve après une soirée en boîte de nuit. Le jeune homme venait de se faire voler sa veste et son sac à dos. Au moins 12 Palestiniens tués aujourd'hui à Gaza. Ils faisaient face aux soldats et aux snipers de l'armée israélienne à la frontière. Des milliers de Palestiniens rassemblés pour 6 semaines. Ils dénoncent le blocus et réclament leur droit de retour en Israël. L'État veillera au respect des engagements pour tenir le budget prévu des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Promesse aujourd'hui du ministère des Sports, de celui des Comptes Publics et enfin du ministère de la Cohésion des Territoires, alors qu'un rapport de l'Inspection Générale des Finances alerte sur le risque de surcoût des travaux jusqu'à 500 millions d'euros en plus.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste quelques minutes pour parler justement diplomatie. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on s'amusait de la décision de la Nouvelle-Zélande qui voulait absolument exclure des espions russes de son sol, mais qui n'en trouvait pas. Donc voilà, qui était un petit peu paniqué, donc qui a dû convoquer donc l'ambassadeur russe à Auckland pour lui parler. Mais là, cette fois-ci, c'est la Russie qui répond à l'expulsion de ses diplomates, de ses agents, voilà, ou alors de son personnel, comme on dit, d'une manière beaucoup plus diplomatique. Vous savez, il y avait 120 diplomates russes qui avaient été déclarés persona non grata dans 26 pays, dont les États-Unis. 60 diplomates avaient été renvoyés des États-Unis, 60 diplomates américains ont été renvoyés de Russie. Et aujourd'hui, eh bien, la Russie a décidé d'expulser 4 diplomates français, puisque nous avions expulsé 4 diplomates russes. Ils vont faire la même chose pour l'Allemagne, la Pologne et prochainement également le Canada. Eric Scholz, c'est quoi? C'est une réponse également aussi,
c'est
normal.
C'est une réponse, classique. Je ne sais pas si les bons comptes font des bons amis, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien qu'entre Paris et Moscou, il y a un jeu depuis maintenant un an. Rappelez-vous,
c'est cette visite. Moi non plus, quoi, véritablement.
Exactement. Ça a commencé avec cette visite de Vladimir Poutine à Versailles. Lors la première rencontre avec Emmanuel Macron. Les deux doivent se revoir dans quelques semaines, ça sera au mois de mai, à Saint-Pétersbourg, et cette visite est un peu en suspens, on se demande toujours si elle va être annulée ou pas. A priori, elle ne devrait pas être annulée, donc pour qu'elle ne soit pas annulée, il ne faut pas non plus qu'on aille dans une crise diplomatique tout de suite. Donc pour le moment, les bons comptes font les bons amis, 4 diplomates, ça fait partie, puisque Emmanuel Macron s'est engagé derrière l'Angleterre dans cette affaire. Dans l'affaire Skripal. Et donc... Aujourd'hui, on voit bien que la difficulté d'Emmanuel Macron, ça va être de conserver un discours à la fois de dialogue avec la Russie et en même temps, parce qu'on s'appelle Emmanuel Macron, de pouvoir affirmer, ce qui s'est passé à Salisbury en Grande-Bretagne, ça ne se fait pas.
Oui, c'est ça. Et alors, rappelons juste que la Grande-Bretagne n'aura pas de représentation diplomatique lors de la Coupe du Monde de Russie, qui se déroulera en Russie donc au mois de juin, et comme l'Islande également aussi, qui a refusé d'envoyer sa présidente. Aller assister donc au match de foot. Étienne Girard, avec ce genre d'affaires, comme on le voit aujourd'hui, est-ce que les preuves d'Emmanuel Macron, la politique macronienne à l'international est un peu mise à mal? Parce qu'on le voit beaucoup faire de la com à l'international sur des sujets voilà frontaux comme ça, comme avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on l'a pu voir en Syrie aussi avec les Kurdes. C'est un peu plus difficile, on a l'impression. C'est un jeu d'équilibre un peu compliqué pour le président.
C'est effectivement un jeu d'équilibre et en même temps, mais la diplomatie, c'est un peu le royaume, l'univers du en même temps.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc Emmanuel, moi, au contraire, j'ai plutôt l'impression que Emmanuel Macron, le président de la République, est plutôt à l'aise dans cet univers. Alors, vous voyez ce qui se passe.
À condition de savoir où tomber.
Oui, oui. Alors, mais sur les Kurdes, c'est intéressant.
Ouais.
On nous explique en off qu'on va
envoyer des soldats français spéciales
pour aider les Kurdes face à l'armée turque. Et en on, Emmanuel Macron nous dit mais pas du tout.
Ouais.
Alors et ça c'est très habile parce que on reste loyal à l'égard des Kurdes qui ont toujours été des alliés efficaces de la France et on évite d'humilier le président turc Erdogan dont on a besoin des services pour retenir les migrants qui passent tous, ou la grande majorité,
c'est ça,
par la Turquie.
Et surtout, mais le problème, c'est que lui, ce soir, il n'est pas content. Le président turc, hein, justement, il a dit, attendez, je ne comprends pas, j'ai vu Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps, il m'avait dit que, voilà, il serait toujours avec moi, finalement, il tape du poing sur la table. Sylvain Maillard, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué, en même temps, juste à tenir au niveau international, comme il peut parfois le faire en France, ce n'est pas un peu difficile, non?
Oui, la diplomatie, c'est toujours compliqué, on est toujours sur le fil du rasoir et avec prisonniers d'intérêts parfois très divergents, avec une histoire qui nous amène parfois dans des cul-de-sac.
Quand vous voyez,
la seule chose que je voudrais dire, c'est à quel point les Kurdes, et ne pas oublier les Kurdes, ce que nous devons aux Kurdes en Syrie, et nous leur devons soutien, aide, parce que... C'est aussi eux qui ont largement libéré la Syrie.
Quand vous voyez François Hollande, ancien président de la République, qui met un petit tacle à Emmanuel Macron en disant « Attention à la Russie, il faut être très très prudent », c'est quoi? C'est de la politique politicienne ou c'est finalement un conseil diplomatique?
François Hollande, tout simplement.
D'accord.
C'est tout simplement que vous voulez-vous que je rajoute, voilà, il est qui regarde son bilan en matière de diplomatie internationale et de ce qu'il a fait en Syrie et dans les pays aux alentours.
Éric Scholl.
Oui, Emmanuel Macron, il n'est pas aidé non plus par les États-Unis et par la politique de Macron qui est incompréhensible. Où un jour, on a Donald Trump qui nous explique que de toute façon ils vont partir de Syrie, etc. Et où il nous dit non, en fait, on y est, c'est incompréhensible. Donc avoir une politique française, c'est bien. Ça serait beaucoup mieux qu'on ait une politique européenne pour pouvoir avancer.
Ça doit s'amener les informés de France Info. Désolé, Emmanuel Pierrin. Voilà. En tout cas, vous viendrez quand vous voulez pour en parler. En tout cas, de la Russie. Merci beaucoup d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci Sylvain Maillard. La une de Marianne.
Platini, l'interview vérité.
Très bien, voilà, retrouvez, dit beaucoup de choses en effet. Éric Scholl, la une de Courrier International.
Alors, on s'intéresse au Japon et on se demande quand est-ce que... on s'intéresse à ce jour où le Japon disparaîtra et c'est évidemment toute cette évolution, cette catastrophe démographique
qui
va arriver un jour et qui va tomber sur le Japon.